l'humanité a beaucoup évolué ces 2500 dernières années. Le monde antique est à l'évidence très différent de notre ère moderne. C'est une époque où la vie est plus simple, une époque exempte du stress de la vie actuelle. Un monde qui ne connaît ni ordinateur, ni technologie de l'information. Pourtant, la vision idyllique que nous avons de l'Antiquité va bientôt changer. Des éléments découverts au fond de la Méditerranée nous révèlent que c'était un monde plus avancé que nous ne l'aurions jamais imaginé. Nous allons remonter aux véritables origines de certaines technologies. La recherche actuelle laisse à penser que bon nombre des inventions des deux derniers siècles étaient déjà connues dans la Grèce et la Rome antique. Nos découvertes récentes ne seraient en fait que des redécouvertes.
Les Grecs et les Romains avaient un grand sens pratique. Beaucoup de ce qu'ils ont conçu, inventé et élaboré précède de 2000 ans les inventions que nous considérons comme modernes.
Au cœur de ce récit sur les réalisations de l'Antiquité se trouve un mécanisme obscur et mystérieux d'une complexité telle que beaucoup refusent de croire qu'il a été fabriqué dans la Grèce antique. Enfoui pendant des siècles au fond de la Méditerranée, recouverte d'une épaisse couche de rouille, cette découverte restera une énigme jusqu'à ce que des chercheurs du XXe siècle explorent ses pièces internes. Ce qu'ils découvrent est stupéfiant. Un ensemble de rouages et d'engrenages. Une machine. Quelle était sa fonction et qui l'a inventée? Pendant un siècle, c'est une énigme qui intrigue et défie tous ceux qui tentent de percer le secret de cet objet mystérieux connu sous le nom de machine d'Anticythère. Aujourd'hui, le voile se lève enfin. L'histoire commence il y a à peine plus de 100 ans, en 1900. C'est le début du printemps. Pris dans la tempête, le capitaine Condos et son équipage de pêcheurs d'éponges trouvent refuge dans une crique de la petite île grecque d'Anticythère. Le calme revenu, le capitaine décide de mettre à profit cette escale forcée. Aussi plonge-t-il dans les eaux claires qui baignent l'île. Ces eaux sont profondes, une soixantaine de mètres, mais n'est-ce pas là où se trouvent les plus belles éponges? À une telle profondeur, un plongeur s'expose pendant la remontée aux problèmes de décompression et à la maladie des caissons. Une fois dans l'eau, le plongeur entreprend sa première descente. Mais ce qui l'attend au fond n'est pas un tapis d'éponge. En regardant autour de lui, il voit ce qui ressemble à des corps, disséminés dans toutes les directions. Terrifié, il demande aussitôt à être remonté à bord. Serait-il devenu fou? Serait-il atteint de la maladie des caissons? La réalité va s'avérer bien plus étrange encore. Il y a plus de 2000 ans, un premier bateau croise dans ces eaux. Affrété à Rhodes, il transporte une précieuse cargaison destinée à un riche Romain. Comme le bateau des pêcheurs d'éponges, ce navire est lui aussi pris dans la tempête. Lui aussi est emporté vers l'île d'Anticythère. l'embarcation va subir un sort fatal. Elle fait naufrage à l'endroit même où elle repose encore aujourd'hui. Le capitaine Kondros envoie un autre plongeur vérifier l'incroyable histoire de ces corps. Ce qu'il avait pris pour des cadavres n'est en fait qu'une collection de statues de bronze et de marbre d'une beauté inimaginable. Des vestiges de cet ancien naufrage. Avec les statues, d'autres trésors sont remontés à la surface. Des amphores décorées et des bijoux grecs. C'est la grande découverte de la première décennie des années 1900, voire du 20e siècle. Les statues spectaculaires font la une de tous les journaux. Parmi les plus beaux bronzes repêchés figurent l'éphèbe d'Anticythère. Cette statue est reconnue dans le monde entier comme une œuvre de génie. De toute évidence, elle a appartenu à un Romain au goût raffiné et d'une richesse colossale. Un homme qui a dû éprouver une amère déception devant la perte de sa cargaison. L'éphèbe d'Anticythère et une autre sculpture connue sous le nom de tête de philosophe sont les pièces maîtresses du naufrage. Deux visages cachés aux yeux du monde depuis plus de 2000 ans. Personne ne sait encore que l'épave recèle la plus grande œuvre de génie. Cet objet rouillé ouvre une porte sur l'une des plus grandes périodes de l'histoire de l'humanité, l'époque hellénistique. C'est sans doute la plus grande réalisation de cette période. Il y a 2500 ans, le monde méditerranéen est un lieu où science, philosophie et art sont florissants. Les Grecs d'alors, les Hellènes, vivent dans une époque que beaucoup d'entre nous considèrent comme l'âge d'or. Ils sont les inventeurs de la démocratie, s'ouvrent aux mathématiques et à la science et introduisent le concept de philosophie dans le monde. Ils ont l'esprit curieux et inventif, et en cela, ils ne sont guère différents des hommes d'aujourd'hui. Au cours de leurs recherches pour comprendre l'univers, ils créent cette étrange machine. Leurs descendants du 21e siècle n'ont plus qu'à en découvrir la fonction. Une solution partielle de l'énigme se trouve à des kilomètres d'Anticythère, dans une vitrine d'un musée de Londres. Il y a 20 ans, Michael Wright, responsable du département des techniques du musée des sciences de Londres, se trouve confronté à un autre mécanisme antique mystérieux. Bien moins complexe, il présente néanmoins des similitudes avec la machine d'Anticythère.
Nous l'appelons le calendrier solaire byzantin. Il date d'environ 500 ans avant Jésus-Christ.
À la fois cadran solaire et calendrier mécanique, il indique la succession des jours en fonction des phases de la Lune pour un mois donné. Les roues dentées semblent étonnamment modernes. La conception d'un tel objet requiert des calculs mathématiques complexes et une connaissance approfondie de l'astronomie. Michael Wright a fabriqué une réplique de l'instrument afin d'en décrypter le fonctionnement. On peut y voir les positions zodiacales du Soleil et de la Lune par n'importe quelle date donnée, ainsi que les phases de la Lune.
Ici, la lettre indique le jour, soit alpha ou A pour le premier jour du mois. En parallèle, dans l'ouverture circulaire, le disque noir représente la nouvelle lune. Si j'avance manuellement jour par jour, on a bêta ou B pour le deuxième jour, puis le troisième, le quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième. Et là, le disque brillant représente la pleine lune. Les autres cadrans montrent la Lune et le Soleil qui font le tour du zodiaque. Cet instrument est beaucoup plus simple que la machine d'Anticythère. Mais ce qui est fascinant, c'est d'avoir trouvé un autre objet qui, d'après les inscriptions grecques, a été fabriqué dans la tradition hellénistique et qui comporte aussi des roues dentées. Ce n'est plus un mécanisme qui nous révèle que les anciens Grecs connaissaient les engrenages, mais deux. Nous avons une double preuve.
Bien que similaire à la machine d'Anticythère, le calendrier solaire n'a que 8 roues dentées, tandis que son ancêtre en possède au moins 29, ce qui permet d'effectuer des calculs bien plus élaborés. La machine d'Anticythère, plus complexe que l'instrument byzantin et plus âgée de 600 ans, serait-elle elle aussi un calendrier mécanique? À cette époque, qui a pu inventer un tel mécanisme? Ce doit être un expert en mathématiques et en technique. Un génie, des siècles, voire des millénaires en avance sur son temps. Un homme correspond à cette description, Archimède, le mathématicien et l'inventeur le plus respecté de son époque. Archimède vit pendant la période hellénistique dans la ville grecque de Syracuse, située en Sicile. À l'époque d'Archimède, le monde méditerranéen est sujet aux troubles et déchiré par les guerres. Un monde dans lequel son talent en génie militaire est exploité à la fois par ses compatriotes grecs et par le nouveau pouvoir offensif de Rome qui étend lentement ses tentacules sur toute la Méditerranée. Archimède est connu en outre pour son invention révolutionnaire de la vis sans fin qui permet de faire monter de l'eau ou des graines en hauteur. Il se passionne aussi pour d'autres problèmes mécaniques complexes, comme la mesure précise des distances. Il lui reste pourtant à relever le plus grand défi de tous. Qu'est-ce qui provoque le lever et le coucher du soleil, le changement des saisons, ainsi que les mouvements bizarres de la Lune et des planètes? En d'autres termes, quelle est la mécanique du temps? Des années auparavant, Archimède avait traversé la Méditerranée pour se rendre dans le haut lieu de la culture du monde hellénistique. Alexandrie, à la lisière de l'Égypte. Alexandrie est alors le lieu le plus sophistiqué de la planète. Fondée par Alexandre le Grand, la cité est dirigée par les descendants d'un de ses généraux, des soldats grecs devenus pharaons. C'est un endroit unique, le point de rencontre des anciennes civilisations méditerranéennes. Une ville où se côtoient Égyptiens, Grecs, Romains et Perses. Ici, la sagesse des pharaons, associée à la pensée philosophique grecque, crée le berceau intellectuel du monde antique. Le jeune Archimède y trouve l'inspiration dans le travail d'un génie de la mécanique, Ctésibios. L'inventeur d'un principe simple mais remarquable, qui va changer la notion du temps à jamais. Ctésibios a la chance de naître à Alexandrie. Une cité où tout le savoir classique du monde antique est regroupé dans une gigantesque bibliothèque. C'est un lieu où les grands penseurs de l'Antiquité ont étudié et où les milliers de manuscrits qui relatent leurs travaux s'entassent sur les innombrables rayons. La bibliothèque est une institution si réputée que l'on vient du monde entier pour y étudier et inventer. C'est ici que l'invention révolutionnaire de Ctésibios s'est archivée. Et c'est ici que le jeune Archimède prend connaissance du travail de ce savant. Personnage souvent oublié de l'histoire, Ctésibios, par ses recherches, a pourtant ouvert la voie à une révolution technique, la mesure du temps. Rien ne le destine à un tel avenir. Il est le fils d'un modeste barbier. Jeune homme, il travaille dans l'échoppe de son père à Alexandrie et invente des gadgets, comme des miroirs réglables. Là, entouré de robinets qui fuient constamment, il trouve l'inspiration pour sa grande invention. Ctésibios sait que depuis des millénaires, les Égyptiens utilisent des horloges à eau simple pour marquer les heures de la journée. La célèbre horloge à eau de Karnak en est un exemple. Couverte de hiéroglyphes compliqués, d'étranges symboles et de représentations de dieux et d'animaux, elle n'en reste pas moins de conception simple, comme nous le montre cette réplique. On remplit le vase à ras-bord et au fur et à mesure qu'il se vide par un bec situé sur la partie inférieure, on calcule la durée du temps qui s'écoule. Sur la face interne, des repères marquent les heures, du lever du soleil à son coucher. Mais le nombre d'heures diurnes varie de mois en mois. Les anciens Égyptiens utilisent cet instrument pour mesurer l'écoulement du temps tout au long d'un jour ou d'une nuit. Ce n'est toutefois qu'une sorte de minuteur, pas une horloge à fonctionnement continu. Dans la société évoluée de la Grèce antique, savoir mesurer le temps avec précision devient d'une importance capitale. Cette société demande à être ordonnée et programmée. Aussi doit-elle être capable de mesurer le temps avec précision. Des cadrans solaires, utiles à certaines heures, ornent encore les façades des monuments importants de la ville, comme la Tour des Vents à Athènes. Mais quand le soleil disparaît derrière un nuage ou quand la nuit tombe, comment lire l'heure? Les Hellènes trouvent une solution à ce dilemme, vieux comme le monde, en inventant une horloge à eau appelée clepsydre.
La clepsydre est un instrument très élégant qui mesure des périodes de temps. Elle sert par exemple à donner le même temps de plaidoirie à des avocats ou le même temps de parole à des orateurs. Son fonctionnement est simple. On remplit un grand récipient d'eau et quand on veut commencer à chronométrer, on retire la bonde et le liquide s'écoule lentement.
Dans des affaires judiciaires mineures, les avocats plaident le temps qu'une clepsydre se vide. Toutefois, dans le cas d'un meurtre, toute une rangée de récipients est parfois nécessaire pour prolonger la durée de la plaidoirie. Quand l'eau est épuisée, le temps de parole est terminé. Ce procédé est à l'origine de l'expression « le temps s'écoule » et c'est littéralement ce qu'il fait. Pour faire une pause ou pendant la nuit, il suffit de remettre la bonde en place.
La clepsydre a un inconvénient majeur. C'est plus un minuteur qu'une horloge. Le problème est le suivant. Quand le vase est plein, l'eau coule avec force. Mais plus le niveau baisse, moins il y a de pression et l'écoulement se réduit à un mince filet.
Les clepsydres ont beau être plus esthétiques, le problème reste le même. L'eau s'écoule plus rapidement au début qu'à la fin. Ils les équipent de repères gradués afin de corriger ce défaut. Mais ils sont incapables de les faire se déplacer à une vitesse constante. Ctésibios entrevoit la solution. Si le vase est toujours plein, la pression de l'eau restera stable. S'il peut maîtriser le débit, il sera capable de fabriquer un instrument de précision qui transformera le monde. C'est le défi qu'il se propose de relever.
Ctésibios a compris que la méthode pour simplifier la clepsydre égyptienne ne reposait pas sur l'écoulement, mais qu'il fallait obtenir un apport en eau à débit constant.
Alan Mills, chercheur à l'université de Leicester, utilise les méthodes classiques de Ctésibios pour fabriquer une réplique de l'une de ses premières horloges à eau.
C'était très sophistiqué pour l'époque. Cela paraît simple, mais il fallait y penser.
Le défi est de garder le réservoir de la clepsydre toujours plein. Voici comment Ctésibios a procédé. Il fixe tout d'abord un second récipient au-dessus du réservoir principal. Ce récipient verse l'eau dans le réservoir par le haut plus vite qu'elle ne s'écoule. Ainsi, le réservoir est-il toujours plein. L'eau en excès s'évacue dans un trop-plein. L'eau sort toujours du réservoir au même débit. Il ne reste plus à Ctésibios qu'à le mesurer. Pour ce faire, il dispose un autre réservoir sous l'écoulement d'eau. Dans ce récipient, il place un flotteur muni d'une aiguille sur sa partie supérieure et une échelle graduée. Au fur et à mesure que le niveau d'eau monte, l'aiguille se déplace à vitesse constante. C'est un trait de génie. Ctésibios vient d'inventer la première horloge mécanique au monde grâce à un robinet qui goûtait dans l'échoppe d'un barbier. En maîtrisant la force hydraulique, il devient maître du temps. Mesurer les heures et les minutes n'est qu'un début. Quelles sont les autres fonctions de cette horloge à eau exceptionnelle? La réponse se trouve dans la grande bibliothèque d'Alexandrie. Dans le monde antique, toute personne désireuse de comprendre le fonctionnement du temps s'y rend pour compulser les ouvrages de Ctésibios, dans lesquels il décrit ses machines extraordinaires et explique le principe qu'il vient d'inventer, l'hydraulique. Bientôt, ces horloges se transforment. De robinets qui goûtent, elles deviennent machines décorées de figurines de dieux et d'animaux dorés. Leur fonctionnement devient plus élaboré. Ctésibios invente une échelle graduée complexe pour mesurer les heures, blanche pour le jour, bleue pour la nuit. Un chérubin tient un vase d'où s'écoule constamment un filet d'eau. Un autre, porteur d'une aiguille, se déplace le long de l'échelle graduée, indiquant les heures du jour ou de la nuit. Mais ce n'est qu'un début. Ctésibios va même jusqu'à utiliser l'eau pour reproduire le bruit d'un sifflet et animer une figurine de chouette. Il invente la première pendule à coucou du monde. Un assemblage de roues dentées de plus en plus complexe fait tourner l'échelle graduée très lentement, indiquant les jours de chaque mois de l'année. Cette horloge fait maintenant office de calendrier. Une horloge à coucou mécanique qui indique le jour, la nuit, le mois et l'année. Archimède se passionne pour les créations de Ctésibios. Il étudie ses horloges et son propre génie inventif prend la relève. Un ouvrage traduit en arabe il y a plus de 1000 ans relate l'œuvre d'Archimède et donne un aperçu des améliorations qu'il a apportées à une horloge à eau de Ctésibios. Cette réplique moderne montre les éléments élaborés qu'Archimède a ajoutés à l'horloge de Ctésibios. Des petites billes tombent du bec d'un oiseau sur une clochette. Ainsi, l'horloge sonne les heures. Le personnage féminin est une gorgone à la chevelure de serpent. Quand la clochette retentit, ses yeux changent de couleur en indiquant l'heure. C'est la première horloge à carillon mécanique de l'histoire. On ne peut qu'imaginer le spectacle d'Archimède dévoilant sa création audacieuse. Dans la mythologie grecque, quiconque fixe la gorgone dans les yeux sera changé en pierre. Mais grâce à Ctésibios, Archimède est celui qui a osé affronter le regard de la gorgone. L'Alexandrie de notre époque est un port moderne débordant d'activité. Un nouveau bâtiment se dresse sur l'emplacement de l'illustre bibliothèque. L'édifice original a subi un sort tragique. Il a entièrement brûlé et avec lui les flammes ont dévoré la quasi-totalité du savoir du monde antique. Seuls quelques rares textes anciens mentionnent l'œuvre de Ctésibios. Nous ne saurons peut-être jamais quelles ont été ses autres inventions, car aucun de ses écrits ne subsiste. À cause de la perte d'un grand nombre de documents, Ctésibios est maintenant tombé dans l'oubli. Il reste malgré tout un héritage de son travail, un indice qui a bravé le temps. Cette modeste tour qui se dresse dans un quartier reculé d'Athènes est l'un des monuments de l'Antiquité les mieux préservés. Pratiquement intacte, elle a miraculeusement survécu, car pendant des siècles, on a cru qu'elle était le tombeau des philosophes Socrate et Platon. Pourtant, ce n'est pas un tombeau. Chacune de ces 8 façades indique sa véritable fonction. 8 sculptures rongées par le temps, jouxtées de cadrans solaires, représentent les 8 vents. Construite par un astronome environ 200 ans après la mort de Ctésibios, ce monument rend hommage à son génie. Ce bâtiment connu aujourd'hui sous le nom de Tour des Vents est une horloge publique dans l'Athènes antique. À l'origine, la tour abrite une grosse horloge à eau complexe construite selon les plans de Ctésibios. Cette horloge est alimentée en permanence par l'eau d'une source située sur les hauteurs de l'acropole. De là, la population d'Athènes peut lire l'heure. Mais elle est plus qu'une horloge ou un calendrier. Certains pensent que cet étrange monument abritait un instrument capable de représenter les mouvements de la Lune et du Soleil par rapport aux constellations. Nous savons qu'à l'époque de Ctésibios, les Grecs mesurent le temps, les jours et les mois. Aurait-il aussi commencé à regarder le ciel et à le mesurer ? Un homme pense que la réponse se trouve dans les roues dentées de la machine d'Anticythère. En 1951, un physicien anglais, Derek de Sola Price, fait pour la première fois au monde une étude détaillée de ce mécanisme. Il se rend à Athènes afin d'examiner la machine. Ces pièces reposent toujours intactes telles qu'elles ont été découvertes 50 ans plus tôt. L'instrument qui s'est encore plus désagrégé expose ses parties dentées. Le physicien anglais peut ainsi les étudier. Il est fermement décidé à percer le mystère de la machine d'Anticythère. passe la plupart de son temps dans le musée national d'Athènes, cherchant la clé de cette énigme des temps anciens. Il a le sentiment que ces fragments sont le véritable trésor de l'épave d'Anticythère. Grâce aux progrès technologiques accomplis en matière de rayons X, il peut alors voir ce qui était invisible 50 ans plus tôt. À travers la corrosion, ce qu'il observe est stupéfiant. C'est une machine si complexe qu'elle pourrait être de notre époque. Il faut absolument qu'il en découvre la fonction. Son étude minutieuse des roues, engrenages et inscriptions lui fournit des indices sur la fonction éventuelle du mécanisme. Des restes d'un boîtier en bois qui contient la machine portent des inscriptions grecques, autre indice révélateur. À l'aide de ces informations, Derek Dosola Price élabore une théorie et fabrique un instrument qui, selon lui, reproduit le fonctionnement de la machine d'Anticythère. Il se rend compte que c'est un instrument extrêmement sophistiqué, destiné à calculer les mouvements relatifs du Soleil et de la Lune. Il représente aussi les jours du mois, sous forme de phases lunaires. Derek Dosola Price atteste sa complexité mécanique et il sait que le savoir requis pour créer une telle machine est immense. Il suppose que sur le devant de la machine, un cadran en bronze indique la date et les positions de la Lune et du Soleil. Un cadran situé à l'arrière indiquerait le mois d'une année qui comprendrait 12 mois. Un autre cadran situé lui aussi à l'arrière semble marquer un cycle de 47 mois ou 4 années. Le physicien anglais appelle le mécanisme calendrier informatisé. Pour quiconque vit dans le monde antique, une telle machine doit être inestimable. Comprendre le mouvement de la Lune et du Soleil dans le ciel revient à pénétrer l'esprit des dieux. Nombreux sont ceux qui croient à cette époque et encore de nos jours que les positions du Soleil, de la Lune et des astres au moment de leur naissance exercent une influence sur leur avenir. Ce que des logiciels complexes en matière d'horoscope sont capables de faire aujourd'hui, la machine d'Anticythère l'a probablement fait il y a plus de 2 millénaires. Pour les prêtres et les astrologues du monde antique, cette machine d'exception est une fenêtre ouverte sur les dieux. D'où vient un tel instrument? Derek Dosola Price a une théorie extraordinaire. Des mécanismes comme la machine d'Anticythère ne seraient-ils pas des pièces d'horloge municipales qui fonctionneraient comme les horloges à eau de Ctésibios? Ils étaient peut-être très répandus dans le monde hellénistique. La Tour des Vents n'était peut-être pas qu'un simple cadran solaire ou une horloge, mais un modèle automatique des mouvements du Soleil et de la Lune. Derek Dosola Price suggère aussi que le grand Archimède s'intéressait à la fabrication de ces machines. La machine d'Anticythère serait-elle une réplique ultérieure de l'une des machines d'Archimède? En 1974, Dosola Price publie ses découvertes dans un article intitulé « Les engrenages chez les Grecs ». Ses écrits suscitent l'intérêt général. Un homme en particulier lit cet article, et pendant les 30 années qui suivront, consacrera son temps à réfléchir à la théorie de Dosola Price. Quand Michael Wright, du Musée des sciences de Londres, lit l'article, il est immédiatement fasciné par l'idée de l'existence d'une ingénierie complexe dans la Grèce antique. Il se rend à Athènes de son propre chef pour examiner le mécanisme et le repasser au rayon X.
Sur cette image, on a un assemblage de plusieurs pièces. Ça m'aide à avoir une vision plus complète de l'agencement des roues dentées à l'intérieur du boîtier, avant que tout ne soit tombé en morceaux.
Bien qu'intrigué par la théorie sur la machine d'Anticythère, Michael Wright pense que le mécanisme recèle bien plus de choses que De Sola Price l'a imaginé.
J'ai relu les engrenages chez les Grecs et j'ai eu des problèmes avec le compte-rendu de De Sola Price. J'ai alors décidé d'examiner la machine moi-même.
Pour comprendre cette étrange machine, Michael Wright ne se contente pas de la regarder. Il essaie d'en fabriquer une. Après la publication de De Sola Price, de nombreux universitaires refusent d'admettre que la machine soit si ancienne. Les engrenages complexes semblent trop modernes. Ils s'interrogent. Comment un peuple antique aurait-il pu calculer et tailler avec précision les fines dents de chaque roue? Il s'agit vraisemblablement d'un objet truqué ou d'une machine plus récente qui aurait été perdue sur le lieu du naufrage. Michael Wright se met à l'ouvrage afin de leur prouver qu'ils ont tort. Dans son atelier, à l'aide des seuls outils connus à l'époque antique et en se référant uniquement à la connaissance de la géométrie des Grecs, il se met à reproduire des roues dentées complexes. Mesurer et tailler des dents avec pour seul outil un compas, une ligne métallique et une bonne vue pour les détails n'est pas une tâche aisée. Ni impossible. Après des heures d'entraînement, Michael Wright prouve sans aucun doute qu'avec de la patience et de l'adresse, c'est réalisable.
On ne peut nier l'évidence. La machine d'Anticythère existe. C'est un objet très abouti, aussi bien dans sa conception que dans sa réalisation. Pourquoi les Grecs anciens ne l'auraient-ils pas fabriqué?
Des traductions du travail d'Archimède nous révèlent qu'il avait une bonne connaissance de ce type de roue. Aujourd'hui, l'étude de ces roues dentées va nous permettre de résoudre un autre mystère relatif à l'une de ces merveilles mécaniques, celui de l'odomètre. Nous utilisons tous des odomètres quand nous conduisons une voiture. C'est l'appareil qui mesure la distance parcourue. Pourtant, cet instrument est utilisé bien avant l'apparition de l'automobile. C'est un élément crucial pour l'expansion de l'Empire romain. L'odomètre aurait été inventé par Archimède quand il travaillait pour l'armée romaine. Par décret, une borne doit être posée à chaque kilomètre de chaque route. Mais les voies romaines s'étendent sur des centaines de kilomètres. Alors, comment les mesurer avec précision ? En inventant une charrette capable de calculer précisément les distances, Archimède résout le problème et les bornes peuvent être posées. Cette mesure précise des distances s'avère cruciale pour planifier le mouvement des troupes. Elle donne la supériorité à Rome sur ses ennemis. Archimède ouvre la voie de l'Empire romain. Et il déclenche une série d'événements qui, ironiquement, va le conduire à sa propre mort. Aujourd'hui, la plus célèbre des voies romaines, la voie Appienne, est toujours jalonnée par endroits de bornes que la machine d'Archimède a permis d'ériger. Pourtant, l'histoire n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Le professeur André Sliswijk de Groningue en Hollande cherche à résoudre un problème à l'aide des clichés radio de la machine d'Anticythère. Faute d'originaux, les seuls documents sur le fonctionnement de l'odomètre se résument à quelques planches décolorées dans un livre de la Renaissance, d'après la description d'un odomètre faite par un auteur romain du nom de Vitruve. Les dessins sont parfaits sur le papier, mais quand il s'agit de les réaliser, ça ne marche pas. Léonard de Vinci lui-même s'est essayé à la tâche. Voici ses dessins d'un odomètre qu'il a tenté de fabriquer sans succès. Afin de percer le mystère de l'odomètre, le professeur Slizvik commence par fabriquer des modèles simples. Il réalise ensuite un modèle quatre fois plus petit que sur les plans. Et ce dernier modèle est différent. Là où Léonard de Vinci a échoué, André Slizvik réussit. Sa machine fonctionne. Le mécanisme est simple. Quand le véhicule roule, une roue à dents unique imprime une rotation à une grande roue munie de 400 dents. À chaque tour de la grande roue dentée, une bille tombe automatiquement dans une boîte située sous l'appareil. C'est ainsi que l'on mesure les kilomètres.
Après la première guerre punique et par décret du Sénat de Rome, on a posé des bornes sur toutes les grandes voies. Ça nous donne une idée de l'identité de l'inventeur. Dans ce cas, c'est Archimède.
Quel est le secret d'André Slizvik? Il se cache dans la forme des dents des roues. Léonard de Vinci et bien d'autres avaient supposé qu'elles étaient carrées. Quant au professeur Slizvik, il avait remarqué les dents pointues sur les radios de la machine denticitaire. C'est la forme des dents qui fait toute la différence. L'odomètre d'Archimède, qui pendant longtemps est resté un rêve irréalisable, est enfin de retour et fonctionne comme le grand homme l'avait conçu. On doit ce succès au plus mystérieux des objets antiques. La machine denticitaire. De retour à Londres, Michael Wright a maintenant réussi à reproduire les dents pointues du mécanisme sur son modèle. Bien plus complexe que l'odomètre, c'est la réplique la plus complète de la machine denticitaire jamais fabriquée. En voyant les dents s'emboîter les unes dans les autres, on se rend compte que De Sola Price s'est trompé sur les détails, mais sa théorie est exacte. La machine denticitaire est bien un instrument de calcul automatisé, peut-être même une sorte d'ordinateur.
On pourrait appeler cet objet un ordinateur, dans le sens où on lui fournit des données, et en retour, il en sort des données connexes.
Un ordinateur antique est une notion difficile à concevoir. Pourtant, par divers aspects, c'est exactement ce qu'est la machine denticitaire. Sa comparaison avec la machine conçue par Charles Babbage dans les années 1830 est surprenante. Sa machine est souvent citée comme étant le premier ordinateur au monde conduisant à notre ère moderne de technologie avancée. C'est la première machine moderne capable d'effectuer des calculs automatiquement. Sa technologie est étonnamment similaire à celle de la machine denticitaire, bien que 2000 ans les séparent. Selon Michael Wright, la machine denticitaire est bien plus complexe que ne l'avait imaginé De Sola Price. Et ce qui est primordial, elle indique le changement de position des planètes, du Soleil et de la Lune dans le temps. Dans le modèle de Michael Wright, on tourne un bouton pour régler les jours et les mois. Un assemblage complexe de roues dentées actionne une série de bras qui représentent le Soleil, la Lune, les planètes. On peut tourner le bouton quotidiennement afin de contrôler la position des planètes tout au long de l'année ou bien choisir un jour précis pour connaître leur position à cette date. Cette machine est une représentation mécanique de l'univers des Grecs. les astrologues de notre époque ont recours à des programmes informatiques complexes pour reproduire les fonctions exactes de la machine d'Anticythère. Cette machine est-elle une invention d'Archimède lui-même? Selon des textes anciens, nous savons qu'il a construit des planétariums. Mais était-il capable de fabriquer ce mécanisme?
Il est difficile d'établir une relation directe entre la machine d'Anticythère et Archimède. Ce qu'on peut dire à coup sûr, c'est que les idées révolutionnaires d'Archimède dans le domaine des mathématiques et de la géométrie étaient indispensables aux créateurs de la machine d'Anticythère. Sans Archimède et ses innovations, la machine d'Anticythère n'aurait jamais été inventée.
Archimède meurt avant d'avoir pu achever son travail révolutionnaire sur les mathématiques et la mécanique. On raconte que dans sa ville, Syracuse, assiégée par les Romains, un soldat a été chargé de le ramener vivant. Furieux devant le refus d'Archimède d'interrompre son travail, le soldat l'aurait tué. Quelle fin ironique pour un homme qui avait tant fait pour donner à Rome une formidable force de frappe. Sa disparition prédit la fin de la tradition hellénistique des grandes inventions et de la science. Son œuvre est toutefois préservée, rangée sur les rayons interminables de l'illustre bibliothèque d'Alexandrie, un trésor plus précieux que tout le butin ramassé par les Romains dans Syracuse. Mais cet héritage ne va pas vivre longtemps. La bibliothèque elle-même est victime de la guerre et de la destruction. Durant les 8 siècles qui suivent, elle est plusieurs fois détruite par des incendies. La plupart des collections, y compris les travaux d'Archimède, sont perdues ou parties en fumée. Si seulement la bibliothèque n'avait pas disparu, nous aurions hérité des travaux de ces grands penseurs. Sans eux, nous avons été forcés de réinventer une grande partie de ce qui était déjà connu il y a plus de 2000 ans. Si nous n'avions pas perdu cette sagesse ancienne, où en seraient les progrès scientifiques et technologiques aujourd'hui? Quels secrets de cette époque sont encore cachés ou ont été perdus? Sans cette tempête soudaine d'il y a plusieurs siècles, le navire n'aurait pas sombré, entraînant sa cargaison de statues, de poteries et cette machine extraordinaire vers le fond de la Méditerranée. Si un groupe de pêcheurs d'éponges n'était pas tombé par hasard sur cette ancienne épave 2000 ans plus tard, la machine d'Anticythère reposerait toujours là, rongée lentement par la rouille. Combien d'autres merveilles de la technologie de cette époque nous sont encore inconnues?
Tout ce qui est mentionné dans la littérature et cet instrument unique sont les parties émergées d'iceberg qui nous montrent que cette tradition a encore bien des choses à nous apprendre.
Il y a plus de 2000 ans, il existait un monde très avancé qu'on ne soupçonnait pas. D'autres de ses secrets dorment dans l'attente d'être découverts. De grandes inventions que nous commençons tout juste à comprendre.